Vous m'en direz des nouvelles est à Dakar, Jean-François Cadet,
Stephen Elsley,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis quelques années, elle cartonne sur les chaînes de télévision, sur YouTube, sur les plateformes africaines, mais aussi de plus en plus internationales. Elles, ce sont les séries sénégalaises, comme Maîtresse d'un homme marié, Infidèle, Karma, Sako et Mangane, Impact, Idol, Mœurs, La Brigade des Femmes, Golden et plein d'autres, impossible évidemment de toutes les citer. Romance, glamour, intrigues policières, teen movies, comédies musicales. Elles ont conquis les cœurs des spectatrices et des spectateurs, se sont installées en tête des audiences et fait grimper le nombre de clics. Elles ont aussi parfois déchaîné bien des passions et des polémiques aussi. On en parle aujourd'hui dans VMDN avec nos quatre invités, la comédienne Awa Jinga Khan, la sociologue Fanta Diallo, Calista Si, qui dirige aujourd'hui Calista Productions, qui nous présentera d'ailleurs sa nouvelle série Yai 2.0 et qui a lancé en 2019 en tant que co-scénariste la série Maîtresse d'un homme marié. Et puis également avec nous le réalisateur et producteur Ibougaï, qui dirige Even Prod, qui produit entre autres les séries Infidèle et Vautour. VMDN est à Dakar et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Ibougaï, quand on parle de cinéma en Afrique, on pense tout de suite au Nigeria, on pense à Nollywood. Est-ce que Dakar est en train de devenir le Nollywood des séries africaines ?
Oui, affirmatif, parce que je pense que ce qu'on est en train de réaliser ces derniers temps montre bien qu'il y a un leadership sénégalais dans ce domaine qui commence à être de plus en plus clair.
Comment est-ce que vous expliquez ce leadership sénégalais ?
Je pense qu'on a su prendre la balle au rebond parce qu'il y avait les telenovelas brésiliennes qui étaient assez fréquentes dans nos ménages. Et on a pu créer, nous, ce que Calista appelle les afro-novelas, je crois. Et je pense que ça a plu aux Sénégalais. Et voilà, nous traitons des thématiques qui sont beaucoup plus proches de nos réalités. Et je pense que ça fait partie du succès. Et maintenant, en Afrique francophone, les gens qui nous comprennent, parce que la plupart de nos productions sont très souvent sous-titrées ou traduites en français. Donc les gens aussi se reconnaissent, je pense, dans les histoires que nous racontons. Et je pense que c'est ce qui fait le succès.
Alors Calista, si je rebondis sur ce mot d'afro-novelas, est-ce que les afro-novelas, ce sont des télé-novelas déclinées sur le territoire africain ou c'est quelque chose de complètement nouveau, de complètement neuf ?
Alors, quelqu'un me parlait du terme, je trouvais ça exotique, bien. Faut se dire qu'aujourd'hui, on avait besoin de se raconter, on avait besoin de mettre une identité sur nous. Et les séries que nous faisons aujourd'hui sont tirées de la réalité sociale. C'est comme aujourd'hui les novelas qui traitent beaucoup de thématiques sociales. Donc, je pense que dans les maisons, tout le monde regardait des séries novelas, mais aujourd'hui, les gens sont plus friands de regarder du contenu qui vient de chez nous. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le challenge, il est là, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan du contenu, que ce soit sur le plan de la direction artistique. On n'a rien à envier forcément aux productions qui viennent d'ailleurs.
Et les productions qui viennent d'ailleurs sont des modèles ou pas du tout ?
C'est des modèles parce qu'ils ont existé bien avant, ils ont un système bien huilé, mais ce n'est pas pour autant que cela veut dire qu'ils font mieux que nous, en fait. Aujourd'hui, dans le monde, tout le monde se raconte, tout le monde se vend et il est temps qu'on fasse une place aujourd'hui à l'Afrique. Et si aujourd'hui, en Afrique francophone, on voit que le Sénégal prend le lead et que beaucoup de pays essaient aujourd'hui de s'intéresser au modèle sénégalais et que la diaspora ou entre autres trouve aujourd'hui du contenu grâce à nous, ce que nous faisons, ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'il est temps que le monde comprenne qu'il y a mille manières de faire et que chaque manière compte.
Fanta Diallo, il y a un vrai phénomène série aujourd'hui au Sénégal ?
Oui, il y a un vrai phénomène. Il y a le public qui est là, qui est attentif, qui est demandeur. Et aujourd'hui, le leadership sénégalais est en train de s'exprimer sur le marché africain, africain francophone en particulier. Et ça, c'est le fait d'une histoire. Ce n'est pas ex nihilo. Il faut rappeler que le cinéma sénégalais a été très longtemps au devant de la scène. Et aujourd'hui, les Calista, les Ibougaï prennent le relais avec un nouveau format, celui des séries. Et ils le vendent bien. Et les plateformes qu'ils offrent aux populations leur permettent de mieux diffuser leurs produits. Et je pense que le public adhère.
Donc les séries sont en quelque sorte les enfants du cinéma ?
Pour moi, oui. J'estime que ce leadership-là, comme vous l'avez appelé, n'est pas ex nihilo. Il y a une vraie culture cinématographique de production dans notre pays. Et aujourd'hui, ces nouveaux producteurs-là n'ont fait que s'adapter à la demande actuelle. On n'est plus dans la production de films de long métrage, mais plus dans des séries qui interpellent, qui parlent et qui touchent ceux qui suivent. J'ai du mal, par exemple, quand je dis le numéro 1 de Vautour, il fait 1h30, j'ai du mal. Alors que pour nous, c'est des séries qui accrochent, qui 30-45 minutes, entre deux ou trois autres priorités, on s'arrête, on prend le smartphone, on suit une série et on avance.
Alors vous jouez dans vos tours justement à Watching a Can, c'est Ibu Gueye hein, qui vous produit. Avant d'être l'actrice que vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous étiez spectatrice de Telenovelas?
Oui, j'ai été spectatrice, mais pas longtemps. Moi, j'ai suivi plutôt des longs métrages, mais j'ai commencé avec des séries. Et avec le temps, j'ai travaillé avec Ibu Gueye. Mais j'ai commencé par faire des séries avant de commencer à les suivre au vrai sens du terme.
Ibu Gueye, est-ce que c'est plus rentable aujourd'hui de faire une série pour la télévision ou pour les plateformes que de faire du cinéma?
Je ne connais pas le modèle économique du cinéma réellement, donc je ne peux peut-être pas faire une comparaison. Mais je pense que le modèle le plus accessible reste les séries pour nous qui nous essayons à la production. Moi, je préfère faire des séries que de m'attaquer au long.
Mais qui sont les spectateurs des séries Fanta Diallo? Déjà, ce sont des spectateurs ou ce sont des spectatrices? Est-ce que c'est un public plutôt urbain ou pas du tout? Est-ce qu'on a une idée type des téléspectateurs qui sont devant leur écran à ce moment-là?
Je ne pourrais pas m'avancer, mais je dirais que c'est une bonne couche de la population. On serait sur du 18-35, 18-45, sans aucune prétention de statisticien, parce que ce n'est pas un travail qui a été fait. Mmh. Mais cependant, ce qui offre aujourd'hui cette accessibilité-là, c'est qu'au-delà de la télévision ou des autres modèles de diffusion, ils ont touché les plateformes numériques. Et ça aussi, aujourd'hui, rend le film beaucoup plus accessible. Avec son smartphone, on peut, avec un peu de connexion, on peut suivre n'importe quelle série ou encore adhérer à des plateformes commerciales où ils diffusent ces dernières. Donc, aujourd'hui, c'est l'accessibilité qui fait qu'ils touchent beaucoup plus de monde, ils touchent beaucoup plus de public et ils sont accessibles dans toutes les maisons. Dans tout,
toutes les tranches d'âge, toutes les catégories socioprofessionnelles, aussi bien les hommes que les femmes, Calistasi?
Oui, aussi bien les hommes que les femmes qui sont intéressés, comme l'a si bien dit Fanta. C'est parce qu'aujourd'hui, le téléspectateur peut choisir la manière dont il va regarder le contenu. Pour beaucoup de femmes aujourd'hui, parce qu'il y a ce qu'on appelle le persona, il faut connaître son public, il faut connaître sa cible. Beaucoup de femmes aujourd'hui regardent parce qu'elles peuvent choisir le moment adéquat pour le faire. C'est le soir, c'est à la pause, c'est le week-end, c'est quand les enfants ne sont pas là. Et c'est leur moment à eux, en fait. Ils ont ce moment-là qui les permet d'être bien, de se trouver en équilibre et... Tout le monde regarde aujourd'hui. Dans la rue, on est interpellé par les plus petits, on est interpellé par de grandes personnes. Et ce qui est bien, c'est que quand on fait une série, on ne sait pas forcément à qui c'est destiné. Et c'est dans la rue, c'est par rapport aux appels, c'est sur les réseaux sociaux qu'on se rend compte que la série touche une cible beaucoup plus large.
Et ensuite, on réoriente éventuellement le scénario, la façon dont on construit les personnages. Pas forcément. Alors justement, comment est-ce qu'on construit une série? Alors, sauf erreur de ma part, il n'y a pas d'école de série au Sénégal. Il y a Kotrajmé qui a ouvert il y a quelques mois, hein, l'école de l'Ajli qui est dirigée par Toumani Sangaré. Mais vous n'avez pas fait d'école ni de réalisation, ni de scénario. Vous êtes journaliste d'ailleurs, je crois, de formation, oui. Calistasi. Comment est-ce que vous êtes lancé comme ça dans l'aventure des séries, du scénario?
À la base, je suis chroniqueuse. J'ai toujours pu poser des émotions, ouvrir un chapitre. Parce qu'il faut savoir que les femmes, elles lisent énormément. Si on prend aujourd'hui la population féminine, c'est des femmes qui ont été accros à tout ce qui est roman à l'eau de rose. C'est les femmes aujourd'hui qui, sur le net, sont accros à des applications qui distillent en fait beaucoup, beaucoup d'œuvres à l'eau de rose, entre guillemets. Et moi, j'ai commencé par la chronique, qui est un genre très répandu. Et puis aujourd'hui, après cette chronique et le fait d'avoir été journaliste, ça m'a donné envie de faire beaucoup plus, de mettre des images sur des mots. Oui. Et c'est comme ça que je suis entrée dans le monde, on va dire, des séries, dans le monde du cinéma. Et comme autodidacte, hein, au début comme autodidacte, et aujourd'hui, au fil du temps, au fil des rencontres avec des professionnels, on se réveille un jour, on se rend compte qu'on sait comment écrire un scénario.
Il y a des règles précises.
Il y a des règles.
On ne peut pas faire n'importe quoi, Ibu Gueye. Alors c'est vrai que quand on regarde une série, on se dit la plupart du temps qu'on a envie de se détendre, de passer un bon moment, de rêver. Hein, aussi, on parlait de livres et de séries à l'eau de rose il y a un instant. Autant, on a un peu l'impression quand même que sur le tournage d'une série, c'est une école de rigueur. ailleurs, quoi. Les règles sont extrêmement précises, on ne peut pas faire n'importe quoi. En France, on utilise, à propos des séries, on parle toujours de bible des personnages, ce qui montre effectivement que les règles sont très très précises et que décidément, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi, quoi. C'est un travail de précision, la série ?
Oui, effectivement, c'est un travail de précision. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut connaître là où on va, ce qu'on raconte, quels sont les personnages, comment les personnages sont. Vous parlez de Bible, donc il faut définir tout ça. Il faut avoir la psychologie de tous ces personnages, comprendre comment ils vont évoluer dans l'histoire, comprendre qu'est-ce qui sera leur chute. Tout ça, c'est travaillé, c'est écrit, c'est préparé. Donc, il faut que tout soit carré.
J'ai trouvé quelqu'un. Mais il est marié.
Les femmes n'ont qu'un rêve. Réussir et se marier.
Oh, Olivier, vous êtes trop mignon.
Leur quotidien est fait de combats. Essayez d'être une mère, la fille de quelqu'un. L'épouse d'un homme, de s'imposer dans le travail ou juste de faire entendre ça.
Je suis née pour bosser et diriger.
C'est quoi être une femme? Beaucoup vous diront « bug sa bop » en parlant d'aimer les belles choses. C'est l'histoire d'un amour assumé.
La maîtresse d'un homme marié, série lancée en 2019 par Maraudi TV sur la 2S TV, avec l'énorme succès que l'on sait, succès qui a dépassé d'ailleurs les frontières du Sénégal. Les épisodes sont disponibles sur YouTube. Chacun d'eux fait en moyenne quelque chose comme 2 à 5 millions de vues. La diaspora aussi est accro. Il y a même eu, il y a quelque temps, une campagne de publicité par voie d'affichage à Paris, dans le quartier de la Gare du Nord notamment. En plus, le Wolof est sous-titré en français. C'est ça la recette du succès, Fanta Diallo ?
Non, je pense qu'au-delà de la langue utilisée, que ce soit sous-titrée ou pas, les gens ont accroché dès le début. Et c'est des histoires qui sont racontées dans lesquelles beaucoup de monde se retrouve, que ce soit les Sénégalaises ou les Africaines en général. J'ai énormément de monde dans toute l'Afrique francophone qui suit ces séries-là parce qu'elles se retrouvent. Et le fait de les sous-titrer les rend beaucoup plus accessibles aujourd'hui. Et ça ouvre ces séries-là au grand public.
Alors c'est une série pionnière, hein, effectivement, Maîtresse d'un homme marié. Je sais bien que ce n'est plus votre aventure à vous aujourd'hui, Calista Si, mais peut-être est-ce que vous pouvez quand même nous raconter vraiment la naissance de cette série, la constitution d'un personnage comme celui de Mariem qu'on entendait là à l'instant.
Je ne peux pas me détacher forcément de cette série parce que je dois à cette série celle que je suis aujourd'hui. Faut se dire que c'est une série avant-gardiste qui a permis que la narration appartienne aux femmes. C'est ça qui est nouveau et je pense que c'est ça qui est marché. C'est d'entendre et de voir des histoires de femmes sans forcément que ce soit très joliment présenté, très joliment fait. Elles ont été vues avec leurs imperfections, elles ont été vues avec leurs désirs, leurs attentes, entre autres. Mariem Diallo, je me dis que c'est ce moi profond en nous qui est libre d'être elle, qui est libre de dire ce qu'elle veut, qui est libre de s'imposer dans une société où il y a beaucoup de restrictions, où on ne peut pas parler de tout et que tous les sujets aujourd'hui peuvent être des sujets à polémique. Et que Mariem, c'est cette Sénégalaise aujourd'hui qui s'assume, ce qui est très difficile dans notre pays, d'assumer sa sexualité, d'assumer sa liberté, d'assumer même le fait aujourd'hui d'être celle qui a le mauvais rôle, en fait, c'est-à-dire la femme qui est avec un homme qui a déjà construit sa vie. Et je pense que c'est pour ça que son personnage a beaucoup plu et que moi, je me dis, ça, c'est profondément moi, en fait. J'adore poser des personnages aujourd'hui qui sont complexes dans l'approche, mais qui, en réalité, sont des personnes de la vie quotidienne, en fait.
Awadji Gankan, c'est quoi un bon personnage de série pour vous ? Quels sont les caractéristiques ?
Je pense qu'un bon personnage...
Vous en avez joué quelques-uns. Hein.
Donc, je pense qu'un bon personnage, c'est d'interpréter l'histoire à sa juste valeur. C'est vraiment de ne pas avoir de tabou par rapport au rôle, d'entrer dans le personnage et d'abord de faire des recherches par rapport à la personne qui a écrit d'abord, par rapport au producteur, par rapport à ses attentes et par rapport à l'évolution de ce personnage. Je pense que si vous arrivez à faire tout ça, vous ferez un bon personnage.
Mais alors, une actrice comme Awadji Gankan, Ibugay, est-ce qu'elle a la possibilité de modifier ce qui arrive à son personnage ? Est-ce qu'on écoute les acteurs et les actrices au moment du tournage pour ensuite faire évoluer la fameuse Bible qu'on évoquait tout à l'heure ?
Normalement, si on reste dans la ligne normale, entre guillemets, ça ne devrait pas être possible. Mais on a des réalités, des fois, qui font que Vous pouvez faire une distribution et vous rendre compte que la personne qui va incarner le personnage pourrait avoir tel ou tel souci. Et éventuellement essayer d'enrober les choses, de les manipuler de sorte à ce que la personne se sente plus à l'aise.
Parce que moi, c'est-à-dire que la vie réelle de l'acteur ou de l'actrice peut influer sur la vie du personnage.
Carrément. Parce que, par exemple, vous discutez avec une personne, elle peut vous dire, écoutez, ici j'ai une séquence où je dois me mettre en nuisette, mes enfants risquent de me poser certains soucis.
Oui. Ah, c'est délicat ça, Wadji Gakan, vous confirmez?
Est-ce qu'il faudrait
oui, je pas confirme. Voilà.
Donc, il y a des détails comme ça qui peuvent des fois nous pousser à modifier certaines choses.
Alors, Ibougay, c'est pour tailler des croupières à maîtresse d'un homme marié que vous avez lancé infidèle?
Oui, un peu.
Calista. Ah ben, pas un petit
c'est
peu.
C'est le débat qu'on Calista. A tout le temps.
Calista et moi, c'est...
C'est même complètement ça.
C'est ça, parce que d'accord. En fait, il me disait qu'un jour, la première fois qu'on s'est vu d'ailleurs, il m'a dit, vraiment, je n'aime pas du tout ce que vous faites sur Infidèle, parce que la manière dont vous racontez les femmes, c'est pas comme ça. Je lui ai dit, la manière dont vous racontez les hommes, c'est pas comme ça. Et donc, c'était de manière... Voilà, on était un tout petit peu en train de se taquiner, mais en réalité, profondément, c'est pas forcément pour répondre à... Moi, je voulais juste donner une version aussi, qui est, comme elle a dit, une manière de raconter les histoires. Moi, je voulais raconter une réalité, contrairement à une histoire. Parce que ce que les gens vivent dans Infidèle, c'est une réalité bien sénégalaise. Maintenant, elle est crue, elle est difficile. Et la manière dont on l'a abordée est un peu, je vais dire, choc ou...
Mais volontairement.
Volontairement.
C'est écrit comme... de faire bouger les choses.
C'est écrit comme ça.
Faire réagir, de susciter des polémiques, de faire du buzz, comme on dit.
Peut-être pas de faire du buzz, parce que là, ce serait qu'on est peut-être que sur le côté marketing et autres. Pour moi, l'histoire est beaucoup plus intéressante que ça. Et ce qu'il faut raconter là-bas, parce que pour moi, les filles qui sont dans la série Infidèle et qui sont plus ou moins cataloguées comme, entre guillemets, ce qu'on appelle filles faciles ici au Sénégal ou maraneuses, pour moi, ma première approche, c'est que ce sont des victimes. C'est des gens qui sont victimes du système. Le système est là. Il faut qu'elles trouvent une solution pour s'en sortir. C'est mon avis personnel et moi, je traite la chose de cette manière-là.
Tu as besoin de combien?
Juste 700 000 francs CFA.
À mon retour, je te gère ça.
2 millions pour une nuit.
Yoki Koukodjour.
C'est un réseau de prostitution de luxe.
Allez tous crever en enfer. Plutôt mourir que de me prostituer.
Hé, hey, tu n'as pas le choix.
Tu sais que le poisson mord toujours à l'hameçon, non? Ces hommes à la quête de la chair fraîche font rire, surtout quand ils sont caressés du sens du poil.
Yo ramgane man au masago si yo.
Wa wilma, t'as fait n'gama yo pour y arma.
Bon, alors on l'a compris, Ibougay, le moins qu'on puisse dire, c'est que vos spectatrices, vos spectateurs aussi, pour Infidèle, ont réagi parfois vertement. Hein. Il y a en particulier une ONG islamique qui s'appelle Jamra qui est montée au créneau. Ils avaient aussi beaucoup critiqué Maîtresse d'un homme marié, à peu près avec les mêmes arguments. Hein. Incitation à la débauche, atteinte aux valeurs morales et culturelles du Sénégal. On vous a d'ailleurs traité de mécréant, Ibougay. Ce sont des critiques qui vous ont touché?
La première fois, oui, parce que je pense que la première critique, elle est venue, je l'ai suivie, moi, directement dans une émission religieuse. Le monsieur en question se prenait pour un oustaz qui disait beaucoup de choses et je l'ai interpellé dans une déclaration que j'ai faite, nommément, pour lui faire comprendre que quand on est croyant, il faut savoir garder sa foi en soi et ne pas juger les autres, parce que heureusement, c'est Dieu le seul juge. Maintenant, après, j'ai compris parce que moi, je sais où je vais, ce que je veux faire et je connais les valeurs que j'ai. Je n'ai besoin de personne pour me dire si je suis mécréant ou musulman ou autre. J'ai besoin que personne valide ma foi.
J'agrée totalement.
Calistasi est complètement d'accord avec vous, visiblement.
Je pense que c'est
vous avez répondu un petit peu sur le thème. Mais alors justement, à ce moment, on a dit que vous avez amendé la série, changé des choses, qu'il y avait parfois des discussions justement entre cette association-là et les scénaristes de l'équipe. C'est vrai ou c'est faux?
Bon, je pense que les gens, ils ont besoin en fait de se rassurer eux-mêmes. Pour ça, qu'ils sont capables de dire du tout et de n'importe quoi. Mais moi, j'agrée complètement la vision de Ibou et je pense que c'est quelque chose qui nous a beaucoup rapprochés. C'est le fait aujourd'hui qu'on sache qui on est et on a besoin de personne pour aujourd'hui peser ou juger notre foi, en fait. Et qu'on sait où est-ce qu'on va et on n'est pas des enfants, on a besoin de personne. Et si quelqu'un se lève pour être un gardien de je ne sais quoi, bah, il a son quartier, il a sa maison, il a sa famille. On est dans un pays démocratique et libre et chacun a le droit quand on respecte la norme sociale de faire ce qu'il veut.
Donc ça veut dire que vous n'avez rien modifié au scénario, vous non plus, Ibougaï ?
Non.
Aucun changement. Fanta Diallo, quel regard la sociologue que vous êtes porte justement sur ces polémiques qui sont quand même récurrentes à propos des séries télévisées lorsqu'il est question d'infidélité, de sexualité ou de rapport à la religion ?
On en arrive à la théorie du reflet. Le cinéma ou les séries, c'est plus ou moins un reflet de ce qui se passe dans notre société. Maintenant, comment cette histoire-là est narrée? Est-ce que le public est prêt à le consommer de tel? Je ne pense pas, parce qu'ils abordent des thématiques que le Sénégalais lambda n'est pas prêt à assumer. La thématique de la sexualité, la thématique de la liberté de la femme, du travail, de la gestion de la maison, c'est des sujets qui ne sont pas faciles à aborder dans notre pays et c'est extrêmement difficile de les toucher. Cependant,
mais pourtant, ils regardent.
Ils regardent.
Le Sénégal est lambda, comme vous dites, ils regardent malgré tout.
C'est une chose de regarder, c'est une autre de l'accepter. Par exemple, M. Gay disait qu'il n'aimait pas la représentation des hommes que Calista faisait dans Maîtresse d'un homme marié. Oui, un homme irresponsable, pas capable de prendre ses responsabilités. Calista n'aime pas la représentation des femmes, elles sont vénales, elles sont matérielles, elles sont infidèles, elles sont complotrices, ce qu'il y a dans infidèle. Mais oui, je trouve qu'il choque beaucoup, qu'il narre des faits qui existent dans notre société. Cependant, au final, celles qui en pâtissent, ce sont les femmes. Parce qu'aujourd'hui, c'est une responsabilité à deux sur ce qui est en train de se passer dans notre société. Que les femmes soient utilisées, soient manipulées, qu'elles soient en mesure de narrer, comme elle le dit. La narration appartient aux femmes et qu'elles sont victimes de ça. Mais Porte à Portée nous montre aujourd'hui que c'est une réalité. Que cette sexualité débridée ou réfrénée, que la société ne veut pas accepter, elle est bien là. Mais comment le narrer et comment ne pas choquer? Pour moi, le cinéma doit éduquer. Est-ce qu'eux, dans leur scénario, ils éduquent?
Eh bien, on va leur poser la question. Alors, Calistasi, est-ce que vous avez aussi cette dimension éducative quand vous écrivez un scénario de fiction?
Pour moi, aujourd'hui, quand je fais mon métier, c'est la neutralité qui prime. On pose un regard sur quelque chose, mais on n'est pas juge, on n'est pas partisan. On n'est pas là pour éduquer ou quoi que ce soit, on pose des faits. C'est vraiment un regard qui soutient le produit que nous faisons.
Mais est-ce que vous vous fixez des limites? Est-ce que vous vous dites, ah là, je risque d'aller un petit peu trop loin, je risque de choquer? Ou bien vous essayez de faire un travail, j'ose pas dire journalistique, mais vous parlez de la réalité. Est-ce que c'est la télé-reflet que vous voulez faire, les séries-reflet?
Moi, je pose juste un débat. Et libre à la personne de prendre le débat par rapport à son vécu, par rapport à son état d'esprit, parce qu'on ne peut pas être juge et partisan. Je ne peux pas être l'auteur de quelque chose et en plus profiter de ce canal-là pour, je ne sais pas, éduquer, faire passer des messages. Ça, c'est comment le public le reçoit. Mais nous, aujourd'hui, on est dans la fiction-réalité. On pose juste quelque chose qui existe sans pour autant... Le but, comme le disait Ibou, on ne peut pas aujourd'hui baser tout notre système aujourd'hui sur le fait de choquer, de faire du buzz. Ça, c'est se tirer une balle dans la tête, dans le pays où nous sommes, en fait.
Mais Fanta Diallo, si ces séries existent et abordent ces questions longtemps taboues, est-ce que ce n'est pas quand même le signe que petit à petit, les choses sont en train de bouger et que la société sénégalaise est moins arc-boutée sur les tabous en question?
Non, je trouve ces scénaristes d'aujourd'hui très résilients. Quelqu'un comme Calista et Bougueil, beaucoup ne pourraient pas relever la tête après toutes les pierres qu'ils ont reçues, je vais l'appeler comme ça. Ça a été vertement décrié, ils ont été diabolisés à des moments. Ils ont su tenir, mais pour moi, je reviens sur l'éducation. Il est important qu'au-delà du fait de pointer le doigt sur un fait de société, de le souligner, de le montrer au grand public, qu'il serait aussi, tout aussi important de montrer des pistes de solutions pour... régler ces problèmes-là.
Alors, la question de l'éducation, justement, Awa Djigakane, vous avez joué il y a quelque temps dans une autre série qui s'appelle C'est la vie. Et l'éducation, justement, était aussi un des éléments clés de cette série, puisqu'on y parlait de sexualité, de droits des femmes, mais aussi d'avortement, de viol, de polygamie, d'excision, de mariage précoce. Donc, c'est quand même des questions extrêmement, extrêmement fortes, parfois douloureuses. On va écouter un extrait. C'est une série signée Marguerite Aboué et Charlie Belletto.
Pour travailler au centre de Santé Ratanga, il faut aimer plonger dans l'inconnu et n'avoir peur de rien. Amis de Ratanga et d'ailleurs, on dit quoi? Allez, on y va.
Docteur, j'ai mal. Comme si c'est nous qui leur disions d'aller tomber enceinte.
Non, mais j'ai des contractions.
Et c'est là. Tu crois quoi? Qu'elles sont là pour un casting? Hé, tu attends ton tour comme tout le monde, ok? J'ai plus envie de prendre ce café.
Awaji Gakan, vous aviez conscience, justement, quand vous jouiez le personnage de Corsa, et plus globalement lorsque vous jouiez dans cette série-là, d'apporter votre pierre à cette dimension éducative qu'on évoquait à l'instant, entre autres avec Fantasiello?
Oui, c'est comme vous disiez tout à l'heure, c'était une série vraiment éducative. Une série qui racontait un peu ce que les femmes vivaient dans la société. Vous savez, ce que vous venez de dire tout à l'heure, c'est que des fois, on choque pour conscientiser. Parce que moi, j'ai interprété ce rôle de sage-femme méchante qui faisait du n'importe quoi dans le centre.
Un petit peu aigri quand même, le personnage de Corsa. Oui.
Et qui reflétait un peu les problèmes qu'elle avait au sein de sa maison, à son travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la personne qui vit certaines choses à la maison, qui est là et qui a certains comportements et qu'il faut vraiment exciter pour en sortir des leçons de morale. Il y a quand même des séries qui font ça. Il y a des séries aussi qui choquent un peu pour faire changer des comportements. Je prends l'exemple d'Infidèle. En fait, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a deux chemins. On choque, tu vois que tu es choqué, tu es dans ça, tu as la possibilité de changer parce que tu vois. Peut-être qu'on peut être dans une situation sans pour autant peser l'ampleur de la chose. Et si on a la possibilité de voir, de faire la part des choses, et on voit, parce que dans Infidèle, il y a aussi de bonnes choses. Entre guillemets, il y a aussi un mauvais chemin, qu'on peut appeler comme ça, et la personne a la possibilité de faire la part des choses et de choisir son propre chemin. Je pense qu'il faut choquer pour pouvoir sensibiliser au vrai sens du terme.
Vous êtes d'accord, Fantasiello?
Oui, il faut choquer pour sensibiliser, mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que ces séries-là font rêver. Ce mode de vie-là fait rêver. Est-ce que ça les choque réellement si on peut atteindre ces objectifs en utilisant tous les moyens possibles? Je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui, les scandales, la répétition nous montrent que c'est ce que nous vivons. Pour moi, les fins doivent peut-être être tragiques, entre guillemets, pour qu'elles prennent conscience réellement. Oui, ces séries-là choquent, mais pour moi, il faut aussi montrer des voies de succès autres que le sexe, que l'argent, que la drogue.
Oui, alors on va en parler dans un instant parce qu'effectivement c'est une thématique qui est présente dans beaucoup de séries, mais je voudrais revenir justement quand même, qu'on s'arrête encore un petit instant sur cette question d'éducation. Par exemple, l'éducation à la santé, l'éducation à la sexualité. Est-ce que la série Fantasiello vous semble être un bon moyen de faire progresser les choses? Est-ce que c'est un bon médium? Plus que des campagnes de prévention par la publicité, par le rôle de la famille, le rôle de l'école ou le rôle des ONG, des médecins?
Oui, ils arrivent à le faire de manière assez subtile. La question du sida est abordée dans Infidèle. Les préservatifs sont abordés dans Maîtresse d'un homme marié. Ils arrivent à le faire de manière assez subtile, même si pour moi ça passe assez vite. Il faudrait peut-être mettre un peu plus le doigt dessus. La question du viol est abordée très, très, très souvent dans ces thématiques-là. Et j'aime bien le feedback sur le comportement de certains personnages qui est dû à un traumatisme antérieur. Très souvent, de manière très subtile, ils le font. Ils montrent que, ben oui, elle n'est pas rentrée dans cette débauche-là de manière inopinée ou parce qu'elle le vit bien, mais parce qu'elle a vécu une vie sexuelle préalable, prématurée, non désirée, qu'elle a été violée dans son enfance, qu'elle a, etc. Je pense qu'ils touchent des sujets assez intéressants, qu'ils vont en profondeur de temps en temps, mais pour moi, il faudra augmenter une dose sur la sensibilisation, un peu comme c'était l'objectif dans C'est la vie, mais ils le font de manière assez subtile et ils passent très rapidement sur certains sujets, pour moi, sur lesquels ils devraient s'arrêter assez longtemps.
Oui, parce que certains disent, Ibougaï, que l'edutainment, c'est-à-dire donc le mélange entre l'éducation et le loisir, eh bien, finalement, est en perte de vitesse, justement, par rapport à l'époque où C'est la vie tenait vraiment le haut du pavé.
Oui, je pense que tout dépend du dosage, en fait. Dans nos séries, quand nous abordons une thématique pour sensibiliser, c'est fait de manière subtile parce que c'est une manière de faire passer, entre guillemets, la pilule, bon, si je peux prendre l'expression. Mais moi, je reviens sur le fait que les séries peuvent éduquer. Nous, on peut choquer parce qu'il faut qu'on ait des thématiques abordées de sorte à ce que les gens regardent, écoutent et que le message puisse passer. Maintenant, derrière, pour moi, là où certaines organisations restent à crier, à parler de dépravation d'autres, c'est à eux de reprendre. Parce que nous, notre rôle en tant qu'entre guillemets artistes même, c'est de susciter ces débats-là, de poser des problématiques. Maintenant, c'est à eux de récupérer et de dire qu'est-ce qu'il faut faire après pour encadrer et sensibiliser dans ce sens. Parce que nous soulevons des débats, simplement. Nous abordons des thématiques, nous soulevons des débats. Maintenant, les manières diffèrent. Et jusqu'à présent, je pense que la méthode qui consiste à associer les deux, c'est l'éducation et un tout petit peu de distraction, permet au public, parce que Nos pays, quand même, sont des pays qui ont une jeunesse assez importante au niveau du pourcentage. Et ces jeunes-là, maintenant, malheureusement, on ne peut pas les retenir devant un débat, on ne peut pas les retenir devant certaines choses. Les seuls moyens de les sensibiliser sur énormément de choses restent actuellement, la plupart du temps, les séries.
Voilà, Ibougaï qui produit également une autre série, on l'a cité, je crois, très rapidement, il y a un instant, la série Vautour.
Il ne veut pas qu'on s'y mêle. Et si tu vois le juge, il sera au courant.
Mais on ne va pas quand même le laisser filer dans la gueule du loup.
Tu vas aller le voir en prison. Oui, une simple visite de routine. On verra ce que ça va donner après.
Mais tu ne crains pas qu'il comprenne que je viens pour lui tirer les vers du nez?
Tu as peur de ses représailles? N'oublie pas une chose très importante. Je suis le bras armé, et je dis bien le seul bras armé de Malang à la Sanjoub. Demande-moi la def d'Ara.
Alors Ibougaï, elle a l'air très ambitieuse cette série. C'est une série qui raconte l'histoire d'une grande famille mafieuse de Dakar, dirigée par un patriarche depuis sa prison. C'était comme ça au départ. Il est donc question de mafia, de trafic de drogue, de business de la mode, de mannequinat. En plus, en filigrane, il y a des allusions à des événements de l'histoire de l'Afrique en général et du Sénégal en particulier. On le voit notamment à travers les noms donnés aux personnages. Comment est-ce que vous avez mélangé tous ces éléments-là? Ça fait beaucoup quand même.
Oui, ça fait beaucoup. Une série vraiment très ambitieuse. C'est vrai. Je la résume par les deux accroches de notre hymne national, soleil sur nos terres, soleil sur notre espoir. Donc c'est une manière de mettre la lumière sur ce que nous avons de peut-être de plus détestable et ce que nous avons de plus précieux. La thématique principale parle de, entre guillemets, de caste, parce que quand je parle de noblesse, là, une famille noble, entre guillemets, mais qui n'est pas noble dans les pratiques, dans la manière de trouver l'argent, dans la manière de vivre, et qui fait référence toujours à ses ancêtres, comme Sidia, qui pense que c'est une grande reine qui vient de Ndateyala et de d'autres, mais qui n'a dans la pratique aucune des valeurs réelles de ses ancêtres.
Alors, Sidia, c'est votre personnage à Wadjinga Khan. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, tout simplement?
Sidia, comme il le dit, c'est une reine de par sa descendance, mais qui est mêlée jusqu'aux os, on va dire, dans de la mafia, et qui est un peu superficielle par rapport à des valeurs. En fait, elle n'a pas de valeur, entre guillemets, mais au vu et au su de tout le monde, elle veut montrer aux gens qu'elle est au-dessus de tout. Alors qu'au fond, elle n'a pas de morale, elle peut faire plein de choses, des coups bas, elle vend de la drogue, mais elle ne les utilise pas au vrai sens du terme. Elle est derrière, elle manipule les gens, c'est vraiment un personnage.
Oui, donc jouer une manipulatrice, ça doit être assez plaisant pour une comédienne à Wadjinga Khan.
Oui, c'est, en fait...
C'est plus intéressant de jouer une méchante ou une manipulatrice qu'une femme gentille et victime.
J'adore jouer la méchante. J'adore jouer la méchante parce que dans la vie réelle, on ne peut pas se le permettre, même si on le fait...
Moi, je connais des gens qui sont méchants, vous savez, ou non ?
Peut-être oui, mais en fait, l'aisance qu'on a d'interpréter ce rôle, en fait, ça amuse. Ça amuse et ça reflète peut-être une partie de la société qui n'est pas vue.
Donc, oui. Si on a lever le voile sur ce qu'on hésite un peu à mettre en avant. Comment vous faites justement à Wadjinga Khan pour entrer dans un tel rôle? Parce que vous n'êtes pas comédienne de très longue date. D'ailleurs, j'ai lu que vous faisiez du micro-jardinage. Comment on fait pour passer du micro-jardinage au tournage?
Oui, en fait, le tournage proprement dit, c'est autre chose. Mais j'ai été comédienne à l'âge de 12-13 ans dans des quartiers parce qu'on avait l'habitude d'avoir des associations avec des troupes théâtrales et tout. Donc, j'avais l'habitude de le faire à bas âge. Et je suis venue, je faisais du micro-jardinage au Centre culturel Léopold Sédar Senghor. Donc, c'est là où on m'a pris, on m'a vu, on m'a fait le casting et on m'a pris comme actrice principale dans C'est la vie. Et... je pensais que c'est quelque chose qui dormait en moi. Parce que j'ai toujours... Là, je suis animatrice à la télévision nationale du Sénégal. Donc, j'ai toujours envie de faire des prises de parole en public. J'ai envie d'interpréter. Il m'arrive de communiquer dans des associations, dans des événements familiaux. Et je pense que ça dormait en moi.
Oui, il y a un vrai prolongement entre les deux métiers.
Voilà, la possibilité de le montrer.
Ça ressemble à quoi un tournage de série, Kelly Sassi? Parce qu'on a toujours l'image d'une sorte d'usine. On a toujours Hollywood en tête. tête. Vous savez, une sorte d'usine, on a l'impression que les scènes sont tournées, qu'il y a 2-3 prises maximum parce qu'il faut aller très très vite pour diminuer au maximum les coûts. C'est ça la réalité d'un tournage d'une série au Sénégal ?
Oui, moi je dis qu'un plateau de tournage, c'est comme à l'armée. Tout est millimétré, tout est bien fait, tout est structuré. Et beaucoup ne se l'imaginent pas, mais c'est énormément de travail, énormément de fatigue, de stress, de peur, de doute. Et pour un résultat quand même qui donne de l'espoir, hein, pour quelque chose de beau, un produit fini qui est beau, qui attire et qui donne envie. Mais il faut savoir qu'on n'a rien à envier à Hollywood. Certes, on a beaucoup de moyens, mais dans la structuration et dans la manière de faire, c'est les mêmes approches.
Sama xol yego nako yo el khalaata mba
xol yeyo
sama xol la
nitel ci mom je dara xaju fa
sayu mayo yo lay bëgg ñu ko xol suma yo
Fayar sumeo, yola baga jakarlo.
Deng na la gudi, fana ne akat kiao. Gent na la gudi gya, na fayar yola jakarlo. Begelam
el halat le, hol yaya.
Akrol, l'esprit et le cœur, Ibougay a traduit pour moi tout à l'heure dans VMDN sur RFI avec la voix d'Ash the Best, une émission spéciale à Dakar. Aujourd'hui, on parle série avec nos invités, la sociologue Fanta Diallo, les producteurs et réalisateurs Calistasi de Calista Productions et Ibougay d'Even Prod et l'actrice Awa Jigakan. Alors Fanta Diallo, vous évoquez tout à l'heure la question de l'argent, hein, le côté argent roi tel que beaucoup de séries sénégalaises le montre sur les écrans. C'est vrai que les personnages évoluent souvent dans un milieu très, très favorisé, pour ne pas dire huppé. On est dans une Afrique urbaine, moderne, avec de belles villas, de belles voitures, des intérieurs très chics, de belles toilettes aussi. On est très très loin de la réalité là pour le coup.
On est très très loin, ils font rêver et les voies du succès qu'ils montrent, c'est pourquoi je revenais sur la valeur éducatrice du cinéma. Les voies du succès qui sont montrées dans ces séries-là sont des voies qui sont accessibles pour très peu de monde. Et les moyens par lesquels ces gens-là accèdent au succès fait peur. Oui. Parce qu'aujourd'hui, si dans ces séries-là que nous voyons à la télé tous les jours, il faut être vénal, il faut être manipulatrice, il faut être infidèle pour avoir cette villa de luxe, conduire une Range Rover, vivre une vie de luxe, c'est quand même un visage qu'il ne faut pas vulgariser dans cette société-là. Il y a très peu de personnages qui ont étudié, qui aujourd'hui sont chefs d'entreprise. On en a eu un peu dans Impact, chef d'entreprise qui a un rôle assez clean, entre guillemets. Mais aujourd'hui, il pointe le doigt plus sur cette société surfaite et cette vie que très peu de Sénégalais peuvent avoir, une très petite minorité. Mais je reviens sur un phénomène qui est montré dans vos tours, c'est sur les valeurs. On peut être noble de nom, noble de sang, parce que les castes, c'est vraiment une vraie problématique dans notre pays. Mais est-ce qu'il faut réussir par tous les moyens? Quelles sont les valeurs qu'on doit avoir, qu'on doit transmettre et qu'on doit inculquer à cette jeunesse-là? C'est des questions.
Ça, c'est la question que vous vous posez, que les spectateurs se posent, mais visiblement, ni Ibougaï ni Kalistassi ne veulent prendre parti, en quelque sorte. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, que vous n'êtes pas des donneurs de leçons, Ibougaï.
Oui, pas des donneurs de leçons, mais...
Vous exposez le problème et puis chacun fait ce qu'il veut?
Pas chacun fait ce qu'il veut.
Ça, c'est au public de décider.
Le public, je pense que chacun tire sa propre leçon en réalité de l'histoire qu'on lui raconte. Et pour revenir au côté bling-bling dont on parle,
oui.
Ça fait il n'y a pas longtemps, on a été ensemble avec Kalista à Los Angeles, on a fait Washington, on a fait plusieurs villes américaines. Et ce qu'on a vu et ce qu'on voyait dans les séries, c'est ce qu'on s'est dit. La première chose qu'on s'est regardé, on s'est dit... Il y a ça à Los Angeles.
Oui. Donc là, pour le coup...
Donc, pour le coup, pour moi, chaque pays essaie de montrer un tout petit peu, faire rêver les gens, ça fait partie du cinéma depuis l'aube des temps. Donc, montrer, pour moi, ce n'est pas forcément faire croire aux gens que, oui, le Sénégal est comme ça, ou c'est une image du Sénégal qu'il faut montrer. Nous montrons aussi l'autre côté. Dans Vautour, c'est un mélange de luxe et de l'histoire principale tourne autour d'un jeune garçon qui ramasse à la limite la marchandise d'un dealer et qui, par ses moyens, se dit pourquoi est-ce que je vais rendre au gars, je vais donner à mes parents de quoi manger, ainsi de suite. Donc pour moi, chacun doit prendre sa leçon, encore une fois, de l'histoire que nous racontons.
Bon, puisqu'on parle d'argent, là, un petit mot des placements de produits, parce que ça, c'est aussi une réalité. C'est aussi une réalité dans les séries, Kalistassi, vous êtes d'accord. C'est la meilleure façon, finalement, de financer, parce que ça coûte cher, quand même, de produire une série. Est-ce que le placement de produits est nécessaire, justement, au développement de la production des séries au Sénégal?
C'est un instinct de survie, il est important. Je pense que la dernière fois qu'on a eu la chance de faire le programme IVLP avec l'ambassade des États-Unis, la question du financement revenait à chaque fois qu'on allait à la rencontre des producteurs. Et la réponse qu'on a eue, c'est trouver le moyen de pouvoir faire vos productions. Et aujourd'hui, le moyen qu'on a au Sénégal de pouvoir faire nos productions, on n'a pas forcément de mécènes, il n'y a pas forcément de système. Oui, il y a le FOPK, il y a des fonds qui sont là, mais ce n'est pas des fonds aujourd'hui qui couvrent la production. Et puis, on a aussi des plateformes de paiement, mais ce n'est pas forcément eux aussi qui portent la production.
Donc, alors, comment on fait ?
Comment on fait? On insère de la publicité, on met beaucoup d'huile, beaucoup de tomates, beaucoup de mayonnaise pour pouvoir vendre ce que nous faisons. Parce que, comme l'a souligné tout à l'heure Fanta, en parlant de représentation, on est dans un business et il faut vendre avec ce business-là. On a vendu le Sénégal avec Maîtresse d'un homme marié parce qu'on a montré un Sénégal qui donnait envie à tout le monde, à tous les Africains. On a pu vendre aujourd'hui le Made in Sénégal. On a pu vendre aujourd'hui les restaurants, on a pu vendre le Sénégal. Pour moi, c'est ce qu'il faut tirer de bien. On a aujourd'hui dans l'industrie cinématographique, les États-Unis ont conquis le monde avec le American Dream, mais quand on va aux États-Unis, ce n'est pas forcément ça. Mais ils ont réussi à avoir cette approche parce que les gens n'achètent pas forcément le misérabilisme. Pas parce que c'est pas porteur, mais personne n'en veut, en quelque sorte. Et s'il faut faire rêver et faire en sorte que les gens se disent qu'il est possible de se réveiller à Yumbel, Guinaouraï, Wakina, Nimzat et de dormir aux Almadi ou un peu partout dans le monde, on va y aller à fond, quelque part.
Alors vous, Kalistassi, vous êtes en pleine opération de lancement de votre prochaine série, Yaï 2.0. Voici un court extrait de la bande-annonce.
Sanjere, tu sais que si tu n'as pas de Yaï, tu n'as pas say mbok duñ la ci bayyi
gis nga ki ngay sonna ni di djuk du dem ak ñew ila yow medine du mësa djuk
alors même si on comprend pas le wolof comme moi il suffit de regarder les images quand même Kalistassi, incroyable le nombre de tests de grossesse que l'on voit dans cette bande annonce hein. Donc la thématique elle est quand même assez claire même si on connaît pas le wolof on comprend que c'est la maternité la pression sociale pour avoir des enfants la question de la stérilité aussi hein, c'est ça j'ai à peu près compris
Oui, c'est bien cela. Comme le disait Fanta, il y a beaucoup de genres qu'il faut qu'on exploite, qu'il faut qu'on pose sur la table. Aujourd'hui, la question de l'infertilité est primordiale. C'est un débat qui doit être posé à tous les niveaux. Dans la série, on a l'histoire de 6 femmes avec un désir de maternité qui n'est pas forcément le même. Hein. On n'a pas toutes et tous un même désir de maternité. Et que, quand on parle d'infertilité au Sénégal et en Afrique, malheureusement, la femme est indexée. On se dit une femme ne peut pas avoir d'enfant. La preuve, dans un couple, quand la femme ne peut pas avoir d'enfant, l'option pour l'homme, c'est d'aller épouser une autre femme. Mais si dans un couple, un homme n'arrive pas à avoir d'enfant, quelle est l'option qui est posée sur la table pour la femme?
Bon, on parle beaucoup de femmes quand même depuis le début de cette émission. Est-ce que les hommes vous intéressent, Ibougaï?
Énormément.
Oui, ou est-ce que c'est vraiment les spectatrices qui priment sur les spectateurs?
Non, les hommes nous intéressent parce que je pense que par rapport à la cible, les hommes regardent énormément les séries. Mais pour ma part, je pense qu'on les attaque plus parce que même s'ils ont le bon rôle en façade, c'est des personnages très souvent, moi, que je décris comme étant des gens faibles parce que je reviens sur Vautour. La famille, toute la famille, avec toute la grandeur que cette famille incarne, et Malao qui joue le patriarche, qui domine tout, c'est Sidia qui a tout le pouvoir. Et la plupart de mes séries, contrairement à ce qu'Alissa pense, très souvent, si vous voyez comment le personnage, l'homme est, la psychologie du personnage, très souvent des hommes que je dépeins comme étant forts, c'est en réalité les plus faibles.
Merci, merci beaucoup à tous les quatre, Kalistasi, Ibougaï, Awaji Gakan et Fantia Diallo. On va se quitter en musique avec Courage, une chanson tirée de La Dernière Voix, la première série musicale panafricaine.
C'est que j'ai un rêve perdu en forêt, il dit qu'on rêvait de mots et merveilles. À qui la faute, c'est sa faute, c'est ta faute, c'est ma faute. Je n'ose pas lui dire, chacun a ses défauts. Et pour sortir d'ici, il faudra se tenir la main, hey, ou partir d'ici. Les gars, il faudra se tenir la main. Le bout du tunnel n'est plus loin. Courage, rendez-vous sur l'autre bord.
Le jour on m'a dit que la chance ne souriait qu'aux autres. Moi je leur ai dit que notre chance elle dépendait de Dieu. Il nous a ouvert les bras, nous a permis d'être toujours à la tête. Il nous a offert la chance de participer à cette aventure. Peu importe les disputes, peu importe les querelles, nous partageons tous l'amour du chant.
C'est tout tracé pour moi, et mon cœur voulait une autre voie. Allez merde, je me lance dans le délire. Des rencontres j'en ai fait, des amis je me suis fait. Une nouvelle vie qui commence à me plaire. De saint plaisir nous voilà dans la mer. Encore des galères, encore des emmerdes. Comment s'en sortir, on saurait le dire. Mais tout compte fait, on y arrivera. Et
ouh, le bout du tunnel n'est plus loin. Courage, rendez-vous sur l'eau.
La forêt nous a liés, pour sortir de là faudrait pas s'éparpiller. Des erreurs on en a commis, mais à qui la faute, faudrait pas s'indexer. Dans le but de vouloir s'évader, dans la forêt on finit bête, coincé, on peut plus avancer. Donc faut se serrer les coudes pour sortir de là. Des heures en forêt sans même boire de l'eau. Avancer ensemble on est capable, qu'à se rassembler, qu'on est tous coupables. Rendez-vous sur l'autre bord mon frère, je veux revoir Wilson, tu sais, refrain.
Un grand merci à tous ceux qui nous ont accueillis ici à Dakar. La Teranga n'est pas un vain mot. Merci notamment à l'équipe de communication de la Biennale d'Art Contemporain. Merci aussi à Baptiste Antoine et Steven Elsley qui ont accompagné la pré-production, la production et la post-production de ces 3 émissions Made in Sénégal. Demain, retour à Paris et vous m'en direz demain.
RFI.